Autre radio, autre culture, bonsoir. Ce soir, nous recevons Guillaume Allemand. Guillaume qui est artiste plasticien. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Alors je vous ai rencontré il y a quelques semaines à peine au Grand Marché d'Art Contemporain de Paris-Bastille.
Bonsoir.
Qui avait lieu fin octobre, tout début novembre et qui regroupe des centaines et des centaines d'artistes.
Oui, il y a plus de 500 artistes représentés sur cette exposition, oui.
C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. J'ai eu 4 coups de cœur dans ce grand salon avec d'innombrables peintres, sculpteurs, artistes plasticiens. Vous, on vous intitule, on vous met dans la catégorie artiste plasticien. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, artiste plasticien, je dirais par défaut, puisque lors de mon inscription à la Maison des artistes, je n'ai pas pu cocher une autre case que celle-ci, puisque mon travail ne rentrait dans aucune autre case. Je ne suis pas peintre, je ne suis pas véritablement sculpteur, je transforme la matière, donc je suis plasticien, je travaille avec la plastique.
Je me suis intéressée un petit peu à votre carrière, mais surtout à votre adolescence, et je me suis aperçue que vous aviez un esprit complètement ouvert à tout ce qui était artistique.
Oui, si vous le dites. Alors oui, je suis issu d'une famille d'artistes. Mes parents étaient musiciens. J'ai pas mal de familles, notamment sur Paris, qui travaillaient dans la musique ou dans l'art en règle générale. Donc effectivement, très jeune, j'ai baigné dans un environnement familial où on abordait à peu près l'ensemble de l'art d'une manière très banale finalement. Je n'ai pas eu d'éducation artistique à proprement parler, mais j'ai baigné dedans. Donc finalement, cette éducation, elle est naturelle.
Alors, elle est tellement naturelle que vous faites quand même des études de musique.
Oui, alors très jeune, j'ai même arrêté l'école, comme la plupart de mes frères et sœurs d'ailleurs. À un moment donné, nos parents nous ont retirés de l'école pour que nous puissions nous consacrer à la musique. Donc j'ai 5 frères et sœurs. Famille nombreuse, et je suis d'ailleurs aujourd'hui le seul à ne pas travailler dans la musique. Tout le reste de la famille vit de cela.
Alors vous avez fait également de la danse ?
Oui, donc à l'adolescence, comme je ne trouvais pas véritablement ma voix dans la musique, je me suis orienté vers la danse. Alors tout d'abord dans une école locale, sur Saint-Étienne, puisque je suis originaire de Saint-Étienne, en abordant les claquettes. Voilà, et puis la danse moderne jazz. Et puis j'imagine que mes parents, ne sachant pas trop ce que j'allais devenir, puisque j'étais un petit peu dispersé, on va dire, et comme j'avais une aptitude à cela, m'ont inscrit dans une école professionnelle de danse à Nice.
Et vous avez quand même été vice-champion de France
Non, n'allons pas jusque-là.
Ah bon ?
Je suis médaillé d'argent en claquettes.
D'accord.
Voilà. Mais ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Ça correspond plus à un niveau. Ça ne veut pas dire que je suis deuxième sur la France. Ça veut dire que j'ai un certain niveau en claquette et que j'ai d'ailleurs pu enseigner par la suite, pendant quelques temps, cette discipline.
Mmh. Est-ce que vous avez par moment des retours vers ce genre d'activité, ne serait-ce que pour s'échapper un peu l'esprit ou, ça vous arrive ou pas ?
Aujourd'hui, pas véritablement, si ce n'est lors de quelques réunions de famille où on ressort les chaussures. Si ce n'est il y a maintenant une dizaine d'années où j'ai créé avec mes deux frères un spectacle de percussions et de claquettes dans le cadre des Mets de la Danse, qui est une manifestation autour de la danse, donc sur la région stéphanoise. Voilà, donc avec beaucoup d'années de recul, j'avais repris avec mes deux frères dans le cadre d'une création les claquettes et la percussion, puisque j'en avais fait au conservatoire également.
Mmh. Effectivement, vous travaillez donc au niveau des claquettes, au niveau de la percussion. Il y a quand même une idée de rythme dans votre vie. Et on a l'impression que ce rythme, on va la retrouver beaucoup plus tard dans la façon dont vous faites votre œuvre. Alors, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, le petit Guillaume est intéressé par énormément de choses et il s'intéresse plus particulièrement à l'électroacoustique.
Oui, j'ai fait pas mal d'instruments au conservatoire, donc percussion, violoncelle, clavecin, saxophone, et je dois en oublier, mais enfin... Mais sans jamais véritablement trouver l'instrument qui me convenait. Et l'électroacoustique n'est pas véritablement un instrument, mais c'est quand même une approche plus globale du son et de la musique, une approche particulière. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, finalement, c'était une discipline qui m'allait bien. Ça me permettait d'expérimenter, de chercher, d'analyser. Voilà, bon, je me suis retrouvé donc jeune adolescent à faire cette discipline avec des adultes, puisque c'était une discipline relativement nouvelle au conservatoire à l'époque, qui ne drainait finalement que des adultes. Donc j'étais seul enfant au milieu d'adultes, avec un regard particulier sur cette discipline, mais je pense que ça m'a ouvert l'esprit sur énormément de choses. Et aujourd'hui, je ne l'utilise pas véritablement directement, mais je pense que l'on retrouve une part de cela dans mon travail actuel.
Et alors ensuite, il y a une espèce de revirement dans cette adolescence où vous tournez vers la nature. Alors est-ce que c'est un revirement ou ça a toujours été ?
Alors c'est pas véritablement un revirement. J'ai été élevé à la campagne, donc je suis de la campagne, donc je suis très proche de la nature. Sans pour autant avoir vraiment ouvert les yeux sur cette nature. C'est-à-dire, j'ai vécu dans la nature, mais sans même la voir. Et c'est une rencontre vers l'âge de 20 ans d'un ami qui m'a initié à l'ornithologie en particulier. Et très très vite, je me suis pris au jeu et j'ai découvert finalement que la nature qui nous entoure est particulièrement riche et que si on ne fait pas attention, on ne la voit pas.
Et les oiseaux en ont été un exemple.
Bah disons que dans la nature, il y a le côté visuel, donc la nature est belle, et puis il y a le côté auditif. Donc j'étais dans cette partie-là qui m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai que les oiseaux sont la partie émergée de l'iceberg. Les oiseaux sont les animaux que l'on va entendre le plus. Les mammifères, on les entend très peu. Les insectes, on les entend, mais ils sont plus difficiles à voir. Donc les oiseaux permettaient d'avoir tous les éléments réunis. On les voit, on les entend. Et en plus, c'est magnifique. Donc, je pense que c'est tout cela qui m'a touché.
Alors, on aurait pu penser que vous seriez justement tourné vers l'enregistrement, au moins de chants d'oiseaux. En fait, vous vous êtes tourné ensuite à la photographie.
Oui, alors, à la fin de mes études de danse, je me suis intéressé à la photo. Et j'ai commencé par faire des photos de spectacles de danse. Donc, j'étais bien placé étant danseur pour savoir quand déclencher. Donc en réalité, je me suis vraiment pris au jeu de cette discipline. Donc je me suis intéressé à la photo avant de m'intéresser à la nature. Mmh. Et m'intéressant ensuite aux oiseaux, je suis naturellement allé vers la photographie animalière.
Cela dure toujours ?
Quand j'en ai l'occasion, oui. Mmh. Mais faute de temps, je fais très très peu de photos d'oiseaux pour l'instant.
Et puis vers 2002, d'un seul coup, vous vous décidez à devenir professionnel au niveau d'artiste plasticien, c'est ça ?
Oui, effectivement, c'est en 2002. Alors entre les deux, il s'est passé quand même pas mal d'années. J'ai travaillé dans la protection de la nature, j'ai été ornithologue. Ensuite, je suis repassé à la photographie pendant quelques années, où là j'ai racheté un magasin photo. Et puis pour des raisons professionnelles et personnelles, j'ai démissionné de ce poste. Et je me suis donc retrouvé du jour au lendemain sans métier et sans chômage également, puisque c'était mon affaire. Et là, je me suis dit, puisque j'avais déjà travaillé l'os, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, oui, hein, oui. Je travaille l'os animal, et bien que j'allais me lancer là-dedans, sans trop savoir où j'allais. Il fallait que j'aille dans cette direction, explorer cette matière qui m'attirait.
Ah, qu'est-ce qui vous attirait particulièrement dans cette matière ?
Alors en réalité, il s'agit d'une rencontre avec la matière. L'ami qui m'a initié à l'ornithologie, il y a donc une vingtaine d'années maintenant, je voulais faire un cadeau à sa femme et je n'avais pas d'argent. Donc quand on n'a pas d'argent, on est obligé de créer, de faire avec ce que l'on a autour de soi. Et j'avais récupéré, je ne sais pour quelle raison, un os à moelle, tout simplement, un morceau d'osso buco. Et j'avais quelques morceaux de bois et j'ai créé un bijou à l'époque en os et bois. Donc je suis descendu dans la cave de mon père, là où il a son atelier. Et puis j'ai commencé à poncer la matière, à en faire des plaques, sans trop savoir dans quelle direction aller. Et puis à les assembler, les coller, jusqu'à obtenir un bijou. Donc c'était une broche qui a plu. Donc voilà, la matière m'intéressait, j'étais relativement bricoleur. J'ai continué à travailler cette matière, à faire quelques bijoux que j'ai offerts autour de moi, puis à faire un ou deux petits tableaux déjà à l'époque. Et puis tout cela est resté en stand-by pendant 15 ans, jusqu'à 2002, où là, je me suis retrouvé donc sans profession. Et je me suis dit, allons-y, c'est le moment de se lancer là-dedans. Et j'ai recommencé donc à travailler la matière tout simplement en refaisant quelques bijoux, en faisant quelques petits tableaux et en rentrant dans un réseau d'artisanat d'art, donc à faire des marchés, des expositions à travers la France. Et les deux premières années d'activité ont été assez difficiles, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais je m'en suis sorti malgré tout. J'ai fait énormément d'expositions à travers la France, je sortais entre 70 et 80 journées à l'année pour montrer mon travail et essayer de le proposer au public.
Alors à partir de quand vous avez, parce que vous avez eu des prix, dont le lauréat du concours Jeune Créateur 2004 à l'Atelier d'Art de France, le prix Art Mural du Salon d'Automne 2007, à partir de quand vous êtes dit, ça y est, je me sens vraiment artiste dans cette branche?
Je ne peux pas véritablement vous dire, donc ça fait maintenant 6 ans que je travaille l'os. Il m'a fallu 6 ans. Pour me considérer et admettre que finalement j'étais artiste. Alors je pense que je le suis de nature, puisque j'ai touché pas mal de choses qui touchent à l'art. Mais j'avoue qu'au début de mon activité, lorsque j'ai commencé à faire des tableaux et à vendre des tableaux, des petits tableaux, et qu'on me demandait quel métier je faisais, je répondais toujours je travaille l'os, mais je ne disais pas que j'étais artiste. J'avais beaucoup de mal à dire que j'étais artiste. Aujourd'hui, je n'ai plus de mal à le dire parce que je pense que ça correspond à une réalité et puis ça correspond surtout à un statut professionnel. C'est-à-dire, je suis artiste, déclaré en tant qu'artiste à la Maison des artistes, je paye mes charges en tant qu'artiste, donc je n'ai plus de difficulté à le dire. Mais il m'a fallu quand même plusieurs années pour l'admettre, tout simplement.
Quel a été l'accueil du public à la vue de vos premières œuvres ?
En fait, tout cela a été très progressif puisqu'au départ, je proposais des bijoux. Donc la matière animale est très utilisée en bijouterie, hein, depuis la nuit des temps. En artisanat, l'os est pas mal utilisé, donc c'est quelque chose qui ne choque pas plus que ça. À partir du moment où j'ai commencé à faire des tableaux, des œuvres un peu plus conséquentes, les avis sont très partagés. J'ai des gens que cela ne choque pas du tout, au contraire, ils trouvent que c'est une valeur ajoutée, si je puis dire, à l'esthétique générale de mon travail. Mais j'ai une partie du public qui s'arrête au côté morbide et macabre de la matière. Ça n'est que culturel, c'est une question d'éducation. Je dis aux gens qui sont choqués par la matière, en général, 99 fois sur 100, ils ont des chaussures en cuir ou des vestes en cuir, qu'il s'agit de peau d'animal mort. Et lorsque je leur dis ça, ils se rendent compte de la stupidité, effectivement, avoir une réaction par rapport à la matière os qui n'est ni moins ni plus choquante que le cuir, en réalité. Donc les avis sont très partagés. Mes tableaux ont une esthétique particulière. Les gens s'arrêtent pour l'esthétique avant tout. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'il s'agit d'os, ça donne un plus à mon travail. Mais il ne faut pas que ce soit parce que c'est de l'os que le travail devienne intéressant.
Alors, ils ont une particularité, d'après ce que j'ai vu au salon. Ils attrapent la lumière.
Oui, alors les dernières œuvres sont des œuvres où je n'utilise quasiment plus que de l'os, puisque pendant quelques années, je l'ai associé au bois brûlé. Aujourd'hui, je réalise des pièces plus conséquentes qui sont des monochromes, blancs, puisque la matière est blanche. Si la pièce n'est pas éclairée, cela fonctionne, mais pas autant qu'avec de la lumière. Je dis que la lumière fait partie intégrante de l'œuvre. Et en réalité, c'est la lumière qui accroche sur l'œuvre et qui crée toute cette particularité de mon travail.
Oui, alors ça donne une œuvre en 3 dimensions.
Oui.
Alors quand on le voit de loin, on n'a pas l'impression, c'est quand on s'approche. C'est cette lumière justement particulière dans vos tableaux. Alors c'est très curieux, ils n'ont jamais de nom.
La plupart du temps, ils n'ont pas de nom. Pour la simple et bonne raison que même si sur certaines œuvres, j'ai une idée très précise lorsque je la réalise, à partir du moment où je donne un titre à une œuvre, je modifie la lecture et la perception que peut en avoir le public. Donc, dans la mesure où je suis sur des tableaux abstraits, pour l'essentiel, je n'ai pas envie d'orienter la lecture de mes tableaux. Soit mes tableaux procurent une émotion, soit ils ne procurent pas d'émotion. Mais
vous pensez que le titre joue là-dessus ?
Oui, je pense que le titre, chez quelques artistes, modifie considérablement la lecture qu'on en a. Et dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, le titre justifie l'œuvre. Et pour moi, ça n'est pas la démarche dans laquelle j'ai envie d'aller. J'ai envie de réaliser une œuvre qui se suffit à elle-même, sans qu'il y ait besoin de donner un titre ou un mode d'emploi. Je ne suis pas un artiste conceptuel. Je suis plutôt un faiseur. Je vous l'ai dit au départ, je viens de plus du milieu de l'artisanat, donc je suis un artisan. Même si aujourd'hui je suis sur des marchés d'art, je garderai toujours cet esprit artisan en tête. Donc j'essaye de faire du beau, tout simplement. Donc soit on est séduit, on est ému par mon travail, soit on ne l'est pas. Mais à partir du moment où je donne un titre, je pense que je vais dans une mauvaise direction. Alors j'ai quelques tableaux qui portent quand même un titre, ce sont plutôt des séries de tableaux, notamment une série qui s'appelle la série Innocence, je n'en suis qu'au quatrième, hein, donc c'est encore pas une grande série. Et Innocence, pour deux raisons, d'abord la blancheur de l'os, donc le rappel de l'innocence, la blancheur, etc. Mais aussi l'innocence de l'animal que j'utilise. J'utilise l'os. Et pour moi, c'est une manière de rendre hommage à l'animal et à la nature. Donc on en revient à cela. Et de pointer du doigt le rapport ambigu qu'entretient l'homme par rapport aux animaux. C'est-à-dire qu'on est, c'est à sens unique. On élève des animaux, on les tue, on les consomme. Je ne suis pas végétarien, il faut manger, hein, c'est pas le souci. Mais je trouve qu'il n'y a pas ou peu de respect de l'animal. Et donc la série Innocence est là pour rendre hommage d'une certaine manière aux animaux.
Quels animaux utilisez-vous? Quel ossement, os vous utilisez plus particulièrement?
Alors au départ, je récupérais l'os dans la nature. Alors je récupérais ou on me récupérait, puisque j'ai un petit peu épuisé le stock qu'il peut y avoir autour de la maison. Et donc c'est vraiment de l'os qui a vécu 5 ans, 100 ans, 1000 ans, voire davantage à l'extérieur et qui au fil des années s'est patiné, s'est teinté, a pris des textures particulières. Donc c'est cette matière-là que j'ai commencé à travailler. Et puis c'est une matière qui est rare, j'ai très très peu de stock d'avance, donc je ne pouvais pas envisager de travailler sur des œuvres conséquentes. Donc j'ai toujours travaillé en fonction de la matière disponible, ce qui m'a obligé d'ailleurs d'une certaine manière à créer des esthétiques très différentes avec la même matière. Et aujourd'hui, pour travailler sur des grands monochromes blancs, je suis obligé de me procurer de l'os en plus grande quantité. Et là, je l'achète. On trouve encore de l'os puisque c'est travaillé encore en lutherie. On en fait également les touches de piano, de clavecin. Donc il y a un petit marché autour de cette matière, mais qui est une matière qui revient très cher.
Je vais être vraiment terre à terre. Ça ne vous arrive pas de faire des commandes au boucher?
Ça ne m'arrive pas de faire des commandes au boucher. Ça m'est arrivé de faire une exposition dans un village au début de mon activité, à proximité de la maison. Et j'ai rencontré le boucher du village qui m'a dit « Ah, mais moi, de l'os, je peux vous en procurer. » Donc effectivement, depuis quelques années, de manière plus ou moins régulière, c'est une fois tous les deux mois, il me téléphone et il m'a mis de côté une bassine ou deux d'os conséquents que je vais récupérer et que j'enterre. Oui. Mais l'os est une matière qui évolue très très doucement dans la nature. Il y a la moelle, donc c'est gras, etc. Donc il faudra peut-être 5, 10 ou davantage avant de pouvoir utiliser cette matière-là. Donc je prépare l'avenir, mais je ne vais pas chercher moi-même la matière pour la traiter ensuite. Ça n'est pas cet aspect-là du travail qui m'intéresse. Je préfère l'acheter, même si elle coûte un peu cher, et puis répercuter le prix de la matière dans le prix de l'œuvre.
Mmh. Moi, je pensais que c'était plus facile d'utiliser de l'os, j'allais dire de l'os vivant, enfin de l'os mort depuis peu de temps, parce que je pensais que c'était plus malléable, plus facile à...
C'est pas plus malléable, c'est... Non, l'os qui a vécu dans la nature, ça va dépendre de l'environnement dans lequel il vieillit, et puis de l'âge également, enfin de la durée de vieillissement. Soit il devient très friable, et donc il se coupe comme du beurre, soit au contraire il se minéralise de plus en plus et il devient un petit peu dur comme de la pierre. Et là pour le coup j'use beaucoup de lames de scie parce qu'effectivement ça devient très très compliqué à débiter, à mettre en forme. Mais ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel il évolue.
Et vous utilisez plus particulièrement des os de mammifères ou parfois vous utilisez des os d'oiseaux?
J'utilise tout type d'os, oui. Sauf naturellement l'os humain. Je n'ai pas envie de rentrer sur ce terrain-là.
Pour quelle raison, d'ailleurs? Parce qu'on avait eu cette question avec Irinus Bicker, qui utilise des crânes humains.
Oui.
et pour en faire un son. Donc, il s'était dit d'ailleurs, pourquoi ne pas utiliser le son du crâne de la grand-mère dans son salon. Mais pourquoi justement cet arrêt puisque quand on voit, bon, je suis archéologue, quand on voit dans les fouilles archéologiques, lorsque les chantiers ne peuvent pas aller jusqu'au bout, il y a les entrepreneurs qui arrivent et il y a des milliers et des milliers d'os humains qui partent comme ça à des charges. Pourquoi justement cette espèce d'arrêt? Enfin, je veux pas
Alors,
qu'on
c'est
fasse un
pas.
commerce de d'os humains, mais.
Bien sûr. Alors, c'est pas dû. Enfin, c'est pas moi qui m'arrête à cela. Parce qu'au fond, cela ne me choquerait pas. Dans la mesure où je travaille l'os pour rendre hommage à l'animal que j'utilise, hein, puisque j'utilise l'os animal, c'est vraiment, je fais un éloge de la vie, finalement. Ce n'est pas du tout le côté macabre ou morbide que je veux mettre en avant dans mon travail. Donc, travailler l'os humain, pourquoi pas? Dans l'absolu, ça ne me dérangerait pas. Mais je vois depuis 6 ans que je propose mes créations au public qu'il y a quand même une partie des gens que cela rebute, le simple fait de travailler l'os animal, sans parler d'os humain. Donc, je pense que si j'allais sur ce terrain-là, qui est un terrain glissant, parce
Oui,
qu'il
tout à
y a les
fait.
problèmes de légalité, hein, après
Oui,
on
tout
ne
à
peut pas
fait.
utiliser n'importe quoi. Je pense que je rentrerai justement sur le côté choquant beaucoup plus de la matière. J'ai déjà ce problème-là, entre guillemets, à gérer, presque un rôle d'éducation, hein, vis-à-vis d'un certain public qui est rebuté par mon travail, pas par mon travail, mais par la matière. Et je pense que c'est simplement les gens qui ont un problème avec cette matière-là sont des gens qui ont un problème avec la mort en général.
Oui, c'est ça, oui. Pourtant, ils ont tous un os à moelle au moment du pot-au-feu.
Oui, mais ça choque pas, parce que c'est rentré dans les mœurs. On a tous du cuir aux pieds ou en veste, ça choque pas. C'est vraiment. Mais par contre, l'os, oui, c'est un. Autrefois, on vivait avec l'os au quotidien. Sous forme de peigne, de boutons, etc. C'était vraiment, avant l'arrivée du plastique, finalement, c'était la matière qu'on utilisait le plus pour tout un tas d'objets usuels. Depuis quelques décennies, le plastique a détrôné cette matière et on a un peu oublié, finalement, ce rapport à la matière qui était un rapport tout à fait naturel autrefois. Et dans nos civilisations, eh ben, l'os reste une matière qui est liée au côté morbide et macabre, à la mort. Voilà. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler l'os humain pour ne pas choquer. Je ne travaille pas l'os pour provoquer ou pour choquer les gens. Je travaille l'os parce que je trouve que c'est une belle matière et pour faire un éloge de la vie, travailler sur toute la symbolique de la vie.
Justement, quelle particularité a cette matière par rapport à de la corne ou de l'ivoire?
Mais chaque matière a sa particularité, elle a rien de plus ou de moins qu'une autre matière, si ce n'est qu'elle a une vibration particulière. Pour moi, faire un tableau en os, je pourrais obtenir la même esthétique avec de la pierre, par exemple, ou même du plastique, pourquoi pas, mais ça n'aurait pas de sens. Esthétiquement, ça serait la même pièce, mais il n'y aurait pas la même vibration derrière cette pièce-là. Donc pour moi, c'est une matière qui est riche de sens. Voilà la raison pour laquelle j'utilise cette matière. Mais ça n'est pas, je n'exclus pas un jour d'utiliser d'autres matières. Je suis pas, enfin, aujourd'hui, je travaille cette matière. J'ai pas tout dit avec cette matière-là. Donc je continue à la travailler, mais il n'est pas exclu qu'un jour je passe à autre chose. Quand j'aurai tout dit avec cette matière, je passerai à une autre matière.
Est-ce que vos œuvres au niveau des os, je ne veux pas dire bougent, mais changent de couleur avec le temps?
Alors les os que je travaille, soit ont été stabilisés par le nombre d'années passées à l'extérieur, donc ils ont déjà évolué. Et le fait de les extraire de leur environnement fait que finalement on stabilise l'évolution de la matière. Et les os plus récents, ceux-ci sont dégraissés, blanchis, donc par des procédés particuliers qui permettent d'assurer la pérennité d'une certaine blancheur dans le temps. Mais forcément, comme toute matière, elle évoluera dans le temps. C'est une matière qui est très proche de l'ivoire, donc ça va évoluer un petit peu comme l'ivoire. Sauf que l'ivoire, en règle générale, n'est pas traité, n'est pas blanchi au départ, alors que là, dans ce cas-là, il est blanchi. Donc, mais lorsque vous achetez un meuble, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, il a légèrement bougé, et ça ne vous gêne pas, parce que vous vivez avec au quotidien. Donc, ça fait partie de la vie de mes œuvres, même si elles jaunissent très très légèrement dans le temps, il faudra plusieurs décennies avant que ce soit visible, et bien ça fait partie de la vie de l'œuvre.
Non, je vous disais ça parce que j'avais des souvenirs comme ça d'archéologues où on travaillait sur des nécropoles et lorsqu'on fouillait des tombes, le squelette nous apparaissait avec des lumières, des couleurs fauves. excessivement belles. Et une fois qu'ils étaient à l'air libre, le squelette blanchissait. Et on avait l'impression qu'il y avait une perte comme ça de la beauté du squelette.
Oui, ça c'est sous l'effet des rayons du soleil.
Oui.
Effectivement, on a tous en tête l'image de squelette de chameau dans le désert africain. Effectivement, les os sont très très blancs sous l'action du soleil.
On parle de vous comme un inventeur de techniques. Alors, on parle de vitrail en plaques d'os et de l'assemblage de bois et d'os. Alors, pouvez-vous nous parler de ce vitrail en plaques d'os, de cette technique particulière ?
En réalité, j'ai pas inventé grand-chose, si ce n'est l'utilisation de l'os comme élément de vitrail. La technique du vitrail existe depuis fort longtemps, donc je l'ai pas créée. Mais a priori, l'os animal n'avait jamais été utilisé en transparence. Et lors de mes premiers travaux, il y a 6 ans donc, je me suis rendu compte qu'en ponçant la matière, tout à fait par hasard, que plus je la ponçais, plus finalement la lumière passait au travers. Et l'idée m'est venue de la poncer à moins d'un millimètre pour pouvoir justement exploiter cette transparence. Et je l'ai serti à l'étain comme un vitrail. Non pas traditionnelle comme la technique au plomb, mais la méthode américaine, la méthode Tiffany. Voilà, mais c'est une technique aujourd'hui que je n'utilise plus. Il n'est pas exclu que je la réutilise un jour, mais je me trouve un peu contraint par la technique. La technique du vitrail est une technique de cloisonnement, et je me sens finalement cloisonné par la technique. Donc je n'ai pas de liberté d'expression, je n'ai pas trouvé encore le moyen de m'exprimer avec cette technique-là. Donc c'est une technique que j'ai mis un petit peu en attente pour l'instant.
On remarque dans vos œuvres d'art, dans celles que j'ai vues donc au Salon de Bastille, des effets de mouvement. Là, lorsqu'on voit les os qui sont sciés avec des volutes blanches sur fond foncé, c'est là votre expression de l'art contemporain ?
Certainement. Comme je vous disais, je suis
parce qu'on a l'impression de beaucoup de mouvements. Avec finalement, vous disiez, d'ossements qui représentent pour des gens la mort. Et en fait, quand on regarde vos tableaux, on a l'impression qu'ils sont excessivement vivants.
C'est tout l'objectif de mon travail, c'est rendre vivant la matière. Alors après, je les agence d'une certaine manière, ce qui fait que j'ai une esthétique qui m'est propre. Et au travers de cette esthétique, j'essaye de créer de la vie, de la musique, des vibrations, de la photographie, puisque j'ai été photographe. Donc il y a tous ces éléments de mon passé, finalement, qui transparaissent au travers des créations actuelles. Il ne faut pas qu'une œuvre soit statique. Donc effectivement, dans la mesure où, sur certains tableaux, je dispose plusieurs milliers, voire plus de 10 ou 15 000 pièces sur une œuvre, le fait de juxtaposer toutes ces pièces les unes aux autres crée presque des effets de perception visuelle déformés, des effets de mouvement. Ça fait parfois référence à l'art cinétique, où on essaye de modifier la perception d'une œuvre. Donc, selon comment elle est éclairée également, ça va transformer la pièce. Donc j'essaye de jouer un petit peu là-dessus, mais sans l'avoir prémédité véritablement au départ. C'est-à-dire que j'ai créé ces pièces-là, et une fois réalisées, je me rends compte que, oui, qu'il y a un effet particulier au niveau visuel, mais ça n'était pas la démarche première. Aujourd'hui, je me rends compte que ça fonctionne, donc je l'utilise. J'essaye d'explorer dans cette direction, mais ça n'est pas une volonté de départ, ce n'était pas réfléchi.
Justement, par rapport à vos précédentes œuvres où l'on voit des os de différentes couleurs et autres, et maintenant vous partez depuis quelque temps dans des fabrications finalement en monochrome,
oui.
La lumière est-elle pas plus présente actuellement qu'elle ne l'était ?
Complètement.
Oui.
Tout à fait. La lumière a une part de plus en plus importante dans...
Oui. C'est ce que par rapport à ce que vous m'aviez montré là tout à l'heure, ou même ce que j'avais vu dans cette fameuse exposition, on était vraiment attiré par tout ce qui était toutes ces œuvres très blanches, très très belles, de toutes petites, je dirais pas esquilles, mais de tout petits morceaux d'os qui sont taillés et qui sont placés d'une certaine manière sur le support, plein de gens qui s'arrêtaient pour regarder.
Et finalement, les œuvres les plus efficaces et celles qui me procurent le plus d'émotions sont les œuvres les plus simples, où il n'y a pas grand-chose. Donc la matière à mon avis, suffisamment forte. C'est pas la peine de rajouter des artifices de couleurs ou même l'association avec le bois brûlé est moins dans ma démarche actuelle, même si je n'ai pas tout dit, parce que pour moi, le bois brûlé a aussi du sens. Mais je suis plus dans une recherche de pureté, de choses plus sobres. Mais je crois que c'est tout simplement, avec le temps, on s'assagit. Donc au départ, j'avais des pièces où j'assemblais l'os au bois précieux. Donc il y avait de la couleur, il y avait du bois, c'était des pièces beaucoup plus déco dans l'esprit. Aujourd'hui, c'est des pièces plus sobres, mais qui, à mon avis, ont beaucoup plus de sens et de valeur.
Est-ce qu'on vous a déjà dit que lorsqu'on voyait vos œuvres, on pensait à l'art japonais actuel ?
Oui, on me l'a déjà dit, mais je dirais que c'est le côté sobre et épuré des dernières pièces qui fait référence à cela. Mais chacun y voit un petit peu ce qu'il a envie d'y voir. Donc l'art japonais, bien sûr, on m'a fait référence à cela. L'art africain aussi, le côté noir-blanc, ébène, même si ce n'est pas de l'ébène. Chacun y voit des références. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, j'ai pas forcément une grande culture plastique. J'ai vu des œuvres, je connais des peintres, je connais des artistes, mais je suis pas historien de l'art du tout. Donc je fais les choses et après on me dit tiens, ça ressemble à tel ou tel artiste et je vais voir et je me rends compte qu'effectivement je ne fais peut-être que réinventer le monde, mais forcément on est inspiré de ce que l'on a vu au préalable. Moi j'aime le côté sobre. Effectivement, de l'art japonais, mais je ne suis pas forcément d'emblée attiré par cette culture. Donc, ce n'est pas ça qui m'a inspiré au départ.
C'est dans le fait justement de ce style, vous le disiez tout de suite, dans ce style épuré, dans les anciennes œuvres, dans cette combinaison de bois et de matière blanche, qui fait qu'on a vraiment ça c'est le chien qui passe. On a vraiment le sentiment de... Vous parliez de pureté, mais c'est ce qu'on ressent par moments dans les œuvres japonaises. Mmh. Cette espèce de philosophie japonaise qui passe dans l'art, même l'art actuel. C'est vrai qu'on y pense, et quand j'ai vu vos œuvres, moi ça m'a beaucoup plu, parce que je dis... Oh, c'était très curieux parce qu'il y en a qui n'aiment pas les os, mais moi je me dis, on se sent bien en les regardant.
Oui, il y a un mot qui revient assez souvent devant mes pièces, c'est le mot reposant. Mm-mm. Je l'entends très souvent, les gens qui rentrent sur le stand, sur l'exposition, et qui disent, ah là, c'est reposant. Quelque part, ça me plaît, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je ne crée pas ces œuvres pour provoquer ou pour choquer. Je travaille la matière dans vraiment un autre esprit. Et le mot reposant me va bien parce que je considère que ce sont des pièces qui éventuellement sont achetées par un certain public. Donc les gens vont vivre avec. Avoir une œuvre qui n'est pas reposante, je pense que l'on doit pouvoir s'en lasser. Donc je crée des pièces qui sont, j'espère, intemporelles et avec lesquelles les gens vont vivre bien. Et c'était d'ailleurs une de mes craintes au départ, lorsque j'ai commencé à vendre des tableaux. Tant qu'on n'en vend pas, on n'a pas cette crainte-là, mais quand on commence à vendre un petit peu, on se dit comment ça va être perçu. Parce qu'on est en exposition, donc on met en valeur son travail, il y a l'éclairage, etc. Et sorti du contexte, comment les gens peuvent-ils vivre avec cette pièce-là ? Et c'était vraiment une crainte. Et pour l'instant, j'ai des retours plutôt positifs où les gens ne regrettent pas du tout leur achat et vivent très très bien au quotidien avec. Donc c'est quelque chose de très rassurant.
Sur votre site, vous avez une dimension un peu ethnologique puisque vous parlez de ces peuples pour qui l'âme la plus importante réside dans les eaux.
Oui. Alors j'ai écrit un petit texte sur le site internet pour répondre justement aux gens qui s'arrêtaient sur le côté macabre et morbide de la matière, pour expliquer que finalement, que c'est culturel, que c'est une question d'éducation. En Afrique, par exemple, on travaille l'os vraiment de manière quotidienne, pour en faire beaucoup d'artisanat, de bijoux, etc. Et autrefois, dans les peuples du nord de l'Europe en particulier, ces peuples partaient à la chasse, tuaient les animaux, consommaient la chair, mais prenaient un soin particulier à ne pas abîmer le squelette et à le reconstituer ensuite dans la nature. C'était pour eux une manière de redonner vie à l'animal. Donc il y avait sûrement deux choses. C'était le respect de la vie d'une part, et puis également, on restitue à la nature l'animal que l'on va ensuite chasser. Donc il y avait un intérêt, j'imagine, à cette croyance-là. Mais je pense que si on avait gardé cette croyance, on ne serait pas dans l'état de déliquescence actuelle au niveau de la nature et de la planète en général. Si on avait continué à respecter les animaux que l'on consomme, les végétaux, les forêts, etc., on aurait une planète en bien, bien meilleur état.
Est-ce que dans votre art, vous faites des émules?
Je ne sais pas, j'espère. Je pense qu'il faut quand même être un petit peu motivé pour travailler cette matière, parce que lorsqu'on la travaille, d'abord, c'est une matière qui est rare, ou qui est chère, selon les cas. Et puis, c'est une matière, lorsqu'on la travaille, qui dégage une odeur qui n'est pas très agréable. Alors, c'est une odeur, moi, qui ne me gêne plus aujourd'hui, mais on a l'impression d'être chez le dentiste puissance 1000.
Oui, c'est vrai,
Voilà, donc c'est une question qui refroidit pas mal de gens qui ont. Alors j'ai pas mal de monde qui s'arrête, qui dit, ah, j'ai travaillé l'os moi aussi. Je me rends compte que en fait pas mal de personnes et d'artistes ont travaillé cette matière, mais de manière différente. Donc il y a beaucoup de monde qui travaille cette matière. Je ne sais pas si je fais des émules. Je pense qu'effectivement, forcément, d'une certaine manière, comme je vous disais tout à l'heure, on est inspiré par ce que l'on voit lorsque l'on va voir une exposition. Même si on ne le fait pas de manière consciente, on va retranscrire dans ses propres créations futures ce que l'on a vu auparavant et digéré. Donc, d'une certaine manière, je vais peut-être laisser une petite trace dans la tête de quelques personnes. Pourquoi pas?
Au niveau des galeries, il y en a qui sont intéressés par votre travail, qui souhaitent vous avoir,
Bah, écoutez,
malgré tout ce que cela comporte, au niveau des gens, dans les idées, sur
Oui,
les eaux.
je suis. En fait, je fais ce travail depuis 6 ans et le travail actuel, c'est un travail qui remonte à 2, 3 ans seulement. Il y a 2 ans, pour rien vous cacher, je ne savais pas trop où j'allais. Hein. Ça devenait difficile de vivre de son art. La conjoncture actuelle et la crise ne datent pas de 2 mois, mais ça
Oui,
fait
de
déjà
bien plus, oui,
voilà, ça fait
bien plus
quelques années
loin,
que ça dure.
tout à fait. Oui.
Donc, il y a 2 ans, j'ai décidé de tenter. De venir à Paris pour montrer mon travail. Et là, tout d'un coup, effectivement, je me suis mis à vendre, ce que j'avais un petit peu de mal à faire en province. Donc, depuis 2 ans, je suis effectivement sollicité par des galeries. Donc, je suis d'ailleurs à Paris ces jours-ci pour finaliser des contacts que j'ai eus ces derniers mois. Et donc, tout ça est en train de se mettre en place, oui.
Les étrangers sont intéressés par vos œuvres?
Bah dans la mesure où cela fait seulement 2 ans que j'expose sur des salons parisiens et qu'auparavant j'étais sur des expositions un petit peu plus qui drainaient moins de monde, disons, je suis pas véritablement connu aujourd'hui. Je suis nouveau sur la place. Donc les étrangers, oui, j'ai quelques pièces à l'étranger.
Oui, mais enfin, vous êtes nouveau, mais vu les gens, je l'ai vu au salon, les gens qui s'arrêtaient, il y avait les artistes des autres stands qui attendaient que le client se manifeste, et puis on voyait que des conglomérats de gens qui s'arrêtaient devant vos tableaux et qui passaient sans regarder les autres, et il y avait ces pauvres artistes qui étaient en train de dire, et moi?
Oui, ça ne veut pas dire que tous les gens achètent un tableau, hein, je vous rassure. Non, mais c'est vrai que j'ai un travail qui est particulier, donc qui interpelle. Ce qui fait que sur une exposition, j'ai énormément de monde qui rentre, mais j'allais dire, dans la plupart des cas, par simple curiosité, pour savoir de quelle matière il s'agit, etc. Mais donc pour les voisins, ça peut être parfois un peu démoralisant, effectivement, mais oui, c'est un travail particulier, donc.
C'est un travail qui est très délicat aussi, quand on voit le.
Moi, j'ai une nature peut-être un peu perfectionniste
C'est
qui
très fin, c'est un travail qui est très très fin. Je le laisse sans voix.
Mais c'est sans voix.
Moi, je
Bah,
conseille mes
je pense
auditeurs à
beaucoup
aller vous
de.
voir.
Je vous remercie. Je pense avoir beaucoup de défauts, mais j'ai au moins une qualité, c'est la patience. Donc, je prends le temps, effectivement, de terminer les pièces le mieux possible.
Eh bien, c'est bien réussi, en tout cas.
Merci
Moi,
beaucoup.
ça m'a vraiment enthousiasmé. J'ai pas le chèque nécessaire pour en acheter un, mais je l'aurais fait. Quel calendrier de vos activités, calendrier à courte échéance?
À courte échéance, je serai présent au Grand Marché d'art contemporain de Paris-Bercy en janvier. Je serai présent au Marché d'art contemporain de Bastille, donc toujours à Paris, au mois d'avril, fin avril, début mai. Et puis, après, ça va dépendre un petit peu de mes capacités à réaliser les pièces, mais j'ai deux galeries qui attendent également des pièces pour les semaines et les mois à venir.
On n'a pas parlé du temps, effectivement, que vous mettez pour faire vos tableaux, mais j'imagine que certains prennent beaucoup, beaucoup de temps.
Oui, alors j'ai une technique qui, effectivement, est assez longue, donc je ne peux pas avoir la même production, entre guillemets, qu'un peintre. J'ai des pièces qui nécessitent plusieurs dizaines, voire plus de 100 heures. Il faudrait un peu plus de temps pour constituer un stock. J'ai très très peu de pièces en stock. En général, je travaille à flux tendu, comme on dit, dans un jargon commercial.
C'est un jargon commercial. Écoutez, merci Guillaume d'être venu.
Je vous en prie, merci à
vous. J'espère que vous reviendrez nous voir si vous êtes dans une galerie dans les environs. Qu'on puisse
bien volontiers
de nouveau reparler de votre travail. Et puis, si vous avez de nouvelles aspirations, j'aimerais bien que vous veniez nous en parler.
Bien volontiers.
Voilà.
Avec plaisir.
Mais je vous remercie beaucoup.
Merci
je
à vous.
Vous souhaite bonne chance et puis bonnes expositions dans les mois qui viendront. Et je les mettrai sur Internet, sur 6e Paris Jazz. Sur Autre Radio, Autre Culture, on mettra le nom de votre site. Et sur 6e Paris Jazz, on mettra une œuvre, une de vos œuvres. Et on mettra également les dates de vos expos. Voilà.
Merci beaucoup.
Voilà, très bien. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.